Bonjour, bienvenue sur Genrage, votre émission féministe lilloise et votre dose d'énergie pour le dimanche, ou bien votre berceuse au choix si vous allez vous apprêter à faire la sieste. Mais je sais pas si on doit le prendre comme un compliment, on verra bien.
C'est l'heure de la sieste, en plus on a changé d'horaire. Donc...
Voilà, peut-être que nos petites voix douces vous permettront de faire de beaux rêves, à voir. Vous êtes bien sur RCV 99FM, où vous pouvez nous écouter en streaming sur le site de RCV et en podcast sur notre site. Vous tapez Jean Rage sur Google et ça passe tout de suite. Et ou sur notre Facebook, Jean Rage encore une fois. Tout de suite, un petit flash info. Ensuite, nous parlerons d'un film qui vient de sortir au cinéma et que Anaëlle est allée voir.
Party Girl.
Voilà. Et puis, nous parlerons d'un article de fond qui s'intitule « Mère porteuse et marchandisation des tissus organiques, une bioéconomie mondialisée ». Donc on a fait un petit travail de vulgarisation à ce sujet, parce que c'est un article un peu compliqué quand même. Attention, on ne dit pas que vous n'êtes pas très intelligent, juste que c'est pas forcément... Bref, on passe. Et puis enfin, on terminera sur une web-série qui s'appelle Féminin Féminin, un petit retour critique sur cette web-série qu'on a regardée et sur lequel on a lu quelques petits articles. Voilà, tout de suite, je laisse la parole à Anaëlle qui va commencer avec la première information qu'on a à vous transmettre.
Alors, la première information concerne la sortie du magazine lesbien Well Well Well, enfin du MOOC en fait, qui est un mix entre magazine et book. Donc la soirée de lancement a lieu à la librairie Violette & Co à Paris le 17 septembre, donc mercredi qui arrive, à 19h. Et on pourra entre autres retrouver dans ce premier numéro au programme donc une interview de Céline Sciamma, une autre de Cribard qui est une historienne, un dossier d'une vingtaine de pages sur le mariage pour tous, un portfolio sur le foot féminin, un témoignage aussi, une infographie sur la biphobie, un portrait de Gisli. Voilà, donc c'est un magazine semestriel qui coûte une quinzaine d'euros, qui est en vente dans plusieurs librairies parisiennes et qui va être mise en vente à partir de mardi sur Internet. Et voilà, et il tient son titre d'une chanson de Le Tigre.
Qu'on vous passera tout à l'heure d'ailleurs. Deuxième petite information, un Tumblr qu'on aimerait vous présenter, enfin pas vous présenter, mais dont on aimerait vous faire pas la promotion, mais allez faire un tour sur ce Tumblr. Il s'appelle Woman Tax, W-O-M-A-N-T-A-X. Et en gros, dessus, c'est un nouveau Tumblr sur le sexisme, mais en chiffres, pour ceux qui croiraient que, en fait, c'est que des vécus et qu'il n'y a pas vraiment de chiffres dessus, ou que c'est à moitié fantasmé par une horde de féministes enragées. Non, 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 pas du tout. Alors, je vais vous donner quelques chiffres pour vous montrer un peu quel genre de commentaires il y a sur ce Tumblr. En 2011, 87,7% des accidents graves, 94,4% des accidents mortels, 80% des accidents corporels causés par des excès de vitesse et 89,5% des accidents causés par l'alcool, donc en gros quasiment tous, étaient imputables à des hommes. On parle d'accidents de voiture, bien évidemment. Depuis, une loi européenne de 2012, femmes et hommes payent nécessairement le même prix pour acquérir une assurance. Voilà, c'est ce genre de petits commentaires que vous trouverez sur ce Tumblr.
Et enfin, la rentrée des rencontres féministes, donc, aura lieu fin septembre, avec entre autres au cinéma L'Univers le 27 septembre, de 9h à 16h, une initiation d'autodéfense féministe en non-mixité, présentée par Garance Asble, je sais pas comment ça se prononce son nom, mais donc il faut absolument réserver, le prix est libre et donc vous pouvez... Il faut réserver. Vous pouvez aller voir pour plus d'informations et pour avoir l'adresse de réservation sur rencontrefeministes.over-blog.org. Et à 20h au cinéma L'Univers, l'entrée peut se faire à partir de 19h. Il y a la projection des Invisibles de Sébastien Lifshitz, suivie d'une discussion, débat, et le prix est fixé à 3 euros. Voilà.
Sans transition, peut-être, on va reparler de... Party Girl, que tu vas nous présenter tout de suite.
Ouais, alors Party Girl, c'est un film de Marie Amachou-Kelly, Claire Burger ou Burger, je sais pas comment ça se dit, et Samuel Théis, qui raconte l'histoire vraie d'Angélie Litzenburger, qui est la mère de Samuel Théis, en fait, donc un des réalisateurs, et qui est le rôle d'Angélique est joué par la véritable Angélique Litzenburger. Le rôle de Samuel Tay s'est aussi joué, enfin c'est joué par les vrais protagonistes de l'histoire en fait. Et donc ça met en scène Angélique qui travaille depuis longtemps dans des cabarets, qui a 60 ans comme quand le film débute, et qui a, enfin pour qui les clients se font rares à l'époque du film. Et donc il y a Michel, un de ses amis, qui est un habitué des cabarets, qui est devenu son ami comme ça, qui est amoureux d'elle depuis quelque temps et qui lui demande de l'épouser en fait. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film, c'est que ça mélange plein de choses parce que voilà, ça met en scène les femmes qui travaillent dans les cabarets. Ça se range dans le travail du sexe ou pas? Je sais pas trop. Je te pose la question, Zad.
Entre spectacle et travail sexuel à voir, oui.
Ouais, bon voilà, donc ça met en scène, on voit, il y a plein de enfin plusieurs femmes qui travaillent dans des cabarets, qui je pense sont interprétées aussi par les véritables personnes de la vraie vie. Et il y a énormément d'émotions dans ce film parce que Michel est réellement amoureux d'Angélique et on sent Angélique plutôt réservée tout au long du film. Ça m'a paru intéressant parce que c'est un beau portrait. Angélique, elle se laisse pas mener par le bout du nez. Alors il y a pas mal de trucs. Ça aborde pas mal de choses, notamment le fait que Angélique touche pas de retraite en fait parce que elle a rien signé de déclaré. Il faut que je précise aussi qu'elle travaille dans des cabarets à la frontière allemande en fait. Donc c'est un film suisse et c'est elle travaille à la frontière suisse-allemande dans des cabarets. Et donc en fait elle se rend compte au moment où elle quitte le cabaret pour épouser Michel que elle touche aucun argent, parce qu'elle n'a pas de retraite, elle ne peut pas toucher de retraite, donc en fait elle est dépendante du salaire que gagne Michel. Et par conséquent, comme elle n'a plus non plus d'emploi, elle reste à la maison. Donc ça met en scène voilà, ce profil, ce portrait de femme au foyer dépendante du revenu masculin. Et en même temps, elle est très, très libre, elle a un caractère bien trempé, à un moment. Elle veut continuer à sortir et aller faire la fête alors que Michel préfère rentrer, elle le laisse rentrer tout seul. Il y a une scène qui suit ça, une scène de ménage, oui, qui suit cette prise de liberté parce que lui aurait voulu qu'elle rentre avec lui, etc. Et ça met aussi en scène la difficulté qu'a Angélique à sortir du cabaret, à entrer dans une vie qu'on pourrait considérer rangée entre guillemets, enfin avec plein de guillemets, et parce qu'elle n'arrive pas non plus à se faire à ce nouveau rythme. Elle est plus non plus chez elle au cabaret puisqu'elle y travaille plus, donc c'était même si elle, avant pour elle c'était son foyer parce qu'elle avait une chambre dans le cabaret, etc. Elle y est toujours la bienvenue parce qu'elle est restée amie avec les travailleuses du cabaret, mais elle est plus chez elle, donc elle a plus vraiment de domicile et de chez soi. Parce qu'elles se sentent pas bien chez Michel, et puis c'est pas chez eux, c'est chez lui. Enfin voilà, ça met pas mal de choses en avant dans ce film. Il y a aussi un truc, alors ça m'a un peu plus dérangée, parce qu'il y a une scène à un moment dans le film où elle retourne au cabaret, et où elle reprend un peu sa place, elle fait comme si elle travaillait encore. Tout le monde allait se faire et donc elle discute avec un jeune homme qui a l'air plutôt intéressé par elle, etc. Et qui finalement qui se révèle relativement grossier d'ailleurs et qui ne veut pas payer une bouteille de champagne, ce qui est normalement le tarif pour passer une partie de la soirée avec les travailleuses dans le cabaret. Et elle se défend hyper violemment d'être une pute. En fait, elle veut absolument pas être prise pour une pute. Et donc, ça m'a un peu... Enfin, la violence du propos tenu par Angélique est un peu gênant. Ça rabaisse un peu les travailleuses du sexe. Ou en tout cas, une partie des travailleuses du sexe, donc les prostituées. Parce qu'elle veut... Enfin, il y a vraiment une frontière à pas franchir. En tout cas, pour elle, on la sent. Et donc, c'est un peu gênant. Enfin, le propos m'a gênée.
Ouais, elle valorise peut-être un peu sa propre activité au dépens du statut social ou symbolique en tout cas de d'autres travailleurs, travailleuses.
Ouais, enfin en fait c'est plus qu'une valorisation, c'est plutôt une dévalorisation en fait des putes.
Oui, mais du coup elle, ouais. Elle valorise son propre travail en ouais. S'appuyant sur une dévalorisation du travail d'autres personnes. Quoi.
Ouais, voilà. Et c'est
stigmatisante en l'occurrence.
Ouais, et puis c'est justement, là, c'est, elle le stigmatise encore plus, elle rentre à mort dans ce stigmate-là, dans le stigmate véhiculé communément, etc. Et c'est une partie du film, alors ça dure 5 minutes, mais c'est hyper violent. Enfin, je l'ai ressenti comme étant hyper violent. Donc voilà, donc moi je trouve que globalement c'est un beau portrait de femme. En plus, tiré d'une histoire vraie, donc c'est Samuel Théis qui rend hommage un peu à sa mère. C'est pas une vie qui est hyper facile. Enfin, en tout cas, Angélique a pas le en souffre pas, mais on voit par exemple, et ça c'est peut-être aussi un peu un stéréotype en même temps, là ça s'est vraiment passé comme ça. Elle a 4 enfants et elle valorise vachement son aîné, donc Samuel Théis, qui travaille à Paris et qui entre guillemets s'en est sorti, donc c'est elle qui le dit, par rapport à ses deux autres enfants qui ont des revenus, etc., mais qui peuvent être perçu comme étant d'un milieu un peu plus populaire et qui ont du coup moins de légitimité par rapport à son aîné qui travaille à Paris. Sa dernière aussi, sa quatrième fille, enfin son quatrième enfant, qui lui a été retirée quand elle avait 6 ans et qui est placée dans une famille d'accueil de qui elle n'a pas eu de nouvelles depuis une dizaine d'années dans le film. Elle la retrouve quand elle a 16 ans, donc pour son mariage, et qui est aussi contente finalement, enfin qui retourne un peu la déception de s'être vue retirer un enfant, parce qu'elle dit aussi qu'elle s'en sortira du coup. Donc c'est un peu aussi là une dévalorisation, elle, de son statut, qui peut être montrée comme une... Enfin, je sais pas trop comment exprimer ça, mais c'est une dévalorisation de son statut qui, parce qu'elle peut pas apporter à ses enfants tout ce qu'elle voudrait leur apporter, ou en tout cas une situation professionnelle qui serait supérieure à la sienne, etc. Enfin voilà, donc il y a tout un aspect aussi un peu classiste, si on peut dire ça comme ça, dans ce film-là, qui est un peu dérangeant pour les spectateurs et parce que c'est assez stéréotypé, etc. En même temps, comme si issu d'une histoire vraie, je suis pas sûre qu'il y ait de parti pris par les réalisateurs de mettre ça en avant, parce que là pour le coup c'est pas fictionnel, mais bon voilà, c'est un peu, en tant que spectateur c'est un peu dérangeant, c'est un peu ça rentre un peu dans les stigmates et dans les caricatures qu'on peut avoir en tête. Et
après c'est une histoire vraie, mais c'est tiré d'une histoire vraie, ils ont réécrit des textes, donc il y a toujours une part de fictionnel.
Ouais, bien sûr.
C'est vrai,
mais
moi,
c'est
quand
même
vachement dérangeant qu'il n'y ait pas la production d'une image positiviste du métier, par exemple, et qu'il y ait et que soit renforcé dans les discours véhiculés dans le film des inégalités de classe et qui mettent en avant certains métiers plutôt que d'autres, ou certaines classes plutôt que d'autres. Et
parce qu'en plus, elle est vachement proche, elle est devenue vraiment amie avec les autres filles qui travaillent avec elle dans le cabaret et qui. Alors, on connaît pas trop leur vie à ces femmes-là, mais on sent quand même qu'elles sont toutes à peu près issues du même milieu populaire, ou que c'est voilà un des moyens qu'elles ont eu pour s'en sortir. Et donc du coup, c'est quand même assez dévalorisant pour les individus aussi, quoi. Voilà. Et puis donc il y a toute cette difficulté qu'elle a à trouver sa place, parce que je l'ai dit tout à l'heure, elle se sent pas chez elle, et d'ailleurs elle a plus de chez elle parce qu'elle quitte le cabaret qui était chez elle, même si c'était son lieu de travail, mais elle y vivait, et dans lequel elle est plus chez elle quand elle y va, et elle devient pas vraiment une cliente parce qu'elle paye pas rien du tout, mais voilà, elle est plus chez elle, et elle est pas chez elle non plus chez Michel. Elle est entretenue, entre guillemets, parce qu'elle touche rien, elle touche pas de salaire, etc. D'ailleurs, c'est Michel aussi qui paye pour ses enfants, alors que ce sont pas ses enfants à lui. Enfin, voilà, il y a tout ce côté de dépendance financière à l'homme qui est... Qui est mise en lumière, mise en avant. Et d'ailleurs, à un moment, elle dit que voilà, elle aimerait bien suivre son fils à Paris pour recommencer quelque chose de nouveau, être à nouveau indépendante, etc. Et bon, je vous spoil un peu la fin du film, mais je trouve que c'est un moment assez fort aussi. Donc, elle accepte d'épouser Michel, et en fait, elle se rend compte... Il y a un fil rouge aussi dans le film, c'est que Elle se rend compte qu'elle supporte pas que Michel la touche, elle arrive pas à l'embrasser, etc. Et en fait, à un moment, voilà, elle se dit à elle-même, et elle finit par lui dire à Michel, d'ailleurs, le soir de la nuit de noces, qu'elle est pas amoureuse de lui et qu'elle arrive pas, en fait. Elle y a cru pendant un moment, sauf qu'elle se rend compte qu'elle arrive pas, elle est pas amoureuse de lui et elle supporte pas qu'il la touche, etc. Et donc, il y a toute cette reprise de liberté aussi, parce que du coup, elle s'en va, elle est toujours dans sa tenue de mariée et elle quitte le domicile. Du coup, on sait pas trop, le film termine là-dessus, elle est dans une. Elle est assise sur un siège à la gare et on sait pas ce qu'elle va faire, on sait pas où elle va aller, si elle s'en va, si. Mais je trouve que c'est comme, enfin, c'est une image assez forte. Elle s'est mariée, mais finalement, voilà, elle arrête de mentir à tout le monde et à elle en premier, et ça marchera pas. C'est pas comme ça qu'elle voit le couple ni l'amour, et du coup, elle reste pas dans un truc qui lui va pas. Voilà, je vous encourage à aller le voir. Je pense qu'il est toujours à l'affiche.
On peut aussi surinterpréter et se dire que finalement, enfin en tout cas son mensonge s'incarnait dans ce faux mariage qui n'était pas un mariage d'amour, mais d'intérêt. Et on peut, enfin peut-être en surinterprétant, on pourrait presque dire que le parti pris du film, ce serait de dire que le mariage c'est basé sur un mensonge.
Pourquoi pas, mais en même temps, non mais c'est vrai.
Je surextrapole peut-être.
Mais il y a pas de notion de mariage d'intérêt dans le film, parce que Michel, il est vraiment amoureux, il la demande en mariage parce qu'il est amoureux d'elle, elle y croit, mais c'est pas comme ça qu'elle voit l'amour. Elle a encore un moment, elle fait toute une description à son fils de ce qui pour elle est l'amour, et enfin son fils lui dit ouais, c'est un truc un peu de princesse, de petite fille et tout, mais elle est encore dans ce schéma là finalement, et ce qu'elle vit avec Michel, ça la comble pas et ça lui va pas. Et justement, je pense qu'elle refuse aussi le mariage d'intérêt, parce que elle s'en va, elle a pas de toit, elle a pas de revenus, elle a que ses enfants, mais qui ont aussi des vies de famille, etc. Donc finalement, elle s'en va sans rien, et c'est aussi une manière de refuser, je pense, pour elle, justement, le mariage d'intérêt que ça risquait de devenir, quoi.
D'accord, bah merci bien pour cette petite chronique cinématographique.
Tout à fait.
Tout de suite, on vous lance un son, Annelle.
Oui, alors on va vous lancer Nuit 17 à 52 de Christine and the Queens, dont le premier album, Chaleur humaine, est sorti cette année. Alors j'ai plus le mois exact. Et voilà, moi j'adore cette fille. Et elle passe en concert en novembre à Lille, mais c'est complet.
Sur cette petite note de fin, à tout de suite.
Nous étions là, toi allongée, déliée d'ornements froids, toi allongée, déliée d'ornements froids. Moi, dans une colère qui ne me ressemblait pas, nuit 50, j'ai forcé le sang. Quand j'ai forcé le sang. Thank you.
Et nous voilà de retour, vous êtes toujours sur RCV. Désolé pour le petit problème technique, c'est ça d'être à la fois à la technique et au micro, c'est pas toujours facile. Tout de suite du coup, sans transition, en transition mais c'est pas grave, on va vous parler du texte « Mère porteuse et marchandisation des tissus organiques, une bioéconomie mondialisée ». Alors c'est un texte écrit par Kevin Floyd, professeur au département d'anglais de l'Université d'État du Kent, en Ohio, qui se penche dans ses écrits, il a publié déjà plusieurs textes et livres, sur les divergences et convergences entre marxisme et théorie queer. Le texte, là en l'occurrence, est traduit par Morgan Merteuil, qui pour rappel est secrétaire général du STRAS, syndicat du travail sexuel, et est une activiste française féministe, propute, c'est-à-dire qui lutte contre la plutophobie et pour la reconnaissance légale et sociale du travail sexuel. Alors on pourrait vous reparler de ces revendications-là, du contexte français ou même international du travail sexuel et de l'exploitation sexuelle, qui sont pas la même chose, attention. Mais ce n'est pas l'objet du texte que je souhaite vulgariser aujourd'hui, même si en l'occurrence, sans aborder directement le travail sexuel, Kevin Floyd prend pour sujet une des formes de travail genré non reconnu comme telle. Donc, mère porteuse et marchandisation des tissus organiques, une bioéconomie mondialisée. En gros, dans ce texte, il propose une redéfinition des notions de travail et de production de valeur au profit d'une reconnaissance du travail reproductif, genré et biologique. Les limites de la reconnaissance de ce statut, et il inscrit ses modalités de travail dans un système économique mondial, donc sous le joug de la finance internationale. Alors en gros, il commence son texte en racontant « Dans les années 70 et 80, des débats ont émergé sur le travail genré, à l'initiative des militants et des militantes féministes, qui ont analysé la contribution des femmes à la production de valeur sous le prisme de la théorie marxiste. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans le processus de production de plus-value, si on essaie de visibiliser les maillons de la chaîne, on a le travailleur qui est une force de production. Alors là, c'est des termes ultra-marxistes, hein, c'est pour ça que j'essaie de vous expliquer un peu. Donc on a le travailleur qui est une force de production, mais on a également son environnement dans lequel le sujet féminin est invisibilisé, alors qu'il participe à la reproduction de la force de travail via la procréation, le soin des enfants et le travail ménager. Donc ce sujet féminin, qui est un peu la condition sine qua non à l'émergence et au maintien de la force de travail, dans la chaîne de production telle qu'elle est décrite, est un sujet complètement invisibilisé. On dit que cette forme de travail est naturalisée, c'est-à-dire prise pour acquis. Du coup, on part de ces années 70-80, de ces réflexions, et 50 ans plus tard, notre économie s'est globalisée, internationalisée, les industries sont délocalisées pour aller chercher les forces de production, donc des travailleurs moins chers, et maximiser la plus-value. Alors la plus-value, je ne l'ai pas expliqué, c'est la marge que se fait le vendeur, que ce soit un produit ou un service qu'il revend. Alors il se fait soit une marge en faisant payer plus que le coût de production, enfin dans tous les cas en faisant payer plus que le coût de production. Alors il peut le faire soit en expropriant une partie de la force du travail des individus, ce qui est généralement fait, c'est-à-dire en ne rémunérant pas les travailleurs à hauteur de leur production réelle. Donc par exemple, si un verre, ça me prend une énergie qui coûterait 50 centimes à produire, ils vont me rémunérer 40 centimes et ils se font une marge de 10 centimes dessus. Voilà. Du coup, une fois le produit manufacturé, il est réintégré sur le marché des pays riches. Les industries sont gagnantes car elles font plus de profits. Et les consommateurs riches le sont également, ou en tout cas pensent l'être, ça dépend. Car le produit est moins cher que s'il avait été produit en France, en circuit court. Ou il est aussi cher, qui sait en fait. On n'en sait trop rien parce qu'on n'a pas ces informations-là.
Ouais, la plus-value, elle joue aussi sur le coût d'achat des consommateurs par rapport au coût de production des producteurs.
Voilà. Exactement. Et du coup, dans cette nouvelle économie complètement globalisée, le travail genré non reconnu comme tel est également soumis aux logiques du commerce international et il est externalisé, globalisé lui aussi. On observe alors une délocalisation des nounous, des bonnes et des travailleuses du sexe du sud, considérées pauvres, vers le nord, considérées riches, qui achètent ces services-là. Donc c'est ce que Kevin Floyd appelle le travail de reproduction sociale. À partir de ces notions-là et à la lumière des réflexions qui ont été produites à ce sujet-là, Catherine Waldby, Melinda Cooper et Kalin Divora, sur qui il a travaillé, proposent une nouvelle hypothèse. Donc c'est l'hypothèse de ces théoriciennes et la sienne. C'est l'hypothèse suivante. Le travail reproductif biologique, cette fois-ci pas social, est également soumis à cette marchandisation globalisée et donc délocalisée, externalisé dans le cadre de la biotechnologie. Donc c'est quoi exactement le travail reproductif biologique ? C'est quand il est externalisé, c'est le cas de la gestation pour autrui par exemple. Donc c'est dit très 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 mal, louer des ventres de femmes pauvres du sud pour des riches consommateurs stériles du nord par exemple. C'est également la circulation vers le nord de tissus reproductifs, parce qu'il y a un véritable marché d'ovocytes, de tissus fœtal, de sang, de cordon ombilical, etc., qui proviennent de corps de femmes du sud, et qui sont rachetés par les industries des cellules souches du nord de l'hémisphère nord, quoi, qui nécessitent des gros volumes de substances. Donc en gros, ce qu'il explique dans ce nouveau marché international, etc., non seulement il y a ce travail de reproduction sociale qui est externalisé, qui est soumis aux lois du marché, mais désormais il y a aussi le travail de reproduction biologique, c'est-à-dire que la fertilité elle-même est devenue une source de revenus à la fois pour des femmes qui vendent leur tissu ou vendent leur force de vie quand elles
font la gestation pour autrui.
Et qui sont aussi, et donc la fertilité est également un produit de consommation pour le marché international, par exemple les ovocytes, etc., pour des clients stériles. Ce travail de reproduction biologique est réalisé par des femmes n'ayant pas accès à un travail formel salarié, puisque de toute façon il est interdit dans les, ce genre de travail est interdit dans les
pays du Nord,
des clients. Mais il constitue quand même une forme de revenu. Donc c'est un espèce de transfert de fertilité d'une zone géographique à une autre, sud-nord ou est-ouest. Hein, on parle aussi de l'axe est-ouest européen, par exemple, ou de l'Asie vers l'Europe ou de l'Asie vers les États-Unis. Mais c'est aussi d'une classe économique et sociale à une autre, des pauvres vers les riches. Alors si au départ, le principe d'économie du don régissait le travail de la reproduction biologique pour des raisons éthiques, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas acheter ce travail de reproduction, c'est parce qu'il y avait une volonté de non-marchandiser les tissus reproductifs, les corps. Les frais payés en échange de ce don, par exemple la prise en charge médicale, etc., par le couple acheteur, malheureusement, on va l'appeler comme ça, correspondaient au départ à un point d'équilibre éthique pour qu'il ne s'agisse ni d'une rétribution économique, qui transformerait le don en transaction, ni d'une forme d'exploitation. C'est-à-dire que ce soit pas une femme qui porte un enfant et puis hop, gratuitement, enfin sans prise en charge en tout cas de ses conditions de vie, etc., on refourgue le bébé à un autre couple. Problème, c'est que, et là je cite Kevin Floyd, les taux de compensation sont couramment poussés vers l'équilibre du marché plutôt que vers un équilibre éthique. C'est-à-dire que la vente des tissus a été interdite originellement, pour protéger les donneurs, donc en don compensé, mais finalement, les logiques du marché tendent à protéger le client plutôt, qui profite des pressions qui favorisent l'offre, par exemple d'ovocytes ou de ventres, toujours moins chers. Deuxièmement, sans vendre des pratiques contraignantes pour les corps, comme des prises d'hormones pour stimuler l'ovulation. Donc ça devient une réelle forme de nouvelle forme d'exploitation internationalisée. Oui, je l'ai bien dit. En plus, c'est aussi à voir avec des situations qui sont racialisées pour correspondre aux souhaits du client. Je recite, les cliniques de fertilité recrutent généralement des donneurs issus de populations phénotiquement similaires aux acheteurs. Par exemple, la couleur de peau, histoire de reproduire le fantasme d'un enfant naturel. Du coup, la question qui est posée notamment par Vora, une des théoriciennes sur qui il a travaillé, c'est la GPA devrait-elle être considérée comme du travail genré et du travail à proprement parler du coup? Et cette théoricienne dit « Les discours sur la gestation pour autrui dans ces contextes, souligne-t-elle, présentent les parents qui produisent l'embryon comme les propriétaires de l'enfant et les scientifiques, médecins et techniciens comme réalisant le travail technique à forte valeur avoutée. La mère porteuse est parallèlement présentée comme un simple contenant passif. Ce discours parvient d'une certaine manière à effacer les corps de la reproduction biologique. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le travail de la mère porteuse qui met à disposition son corps, sa force de production de vie, ses tissus, et qui est finalement une des conditions sine qua non à la réalisation de l'objectif qui est la production d'un enfant, parce que dans ce marché, l'enfant devient le produit.
Ouais.
Désolée pour l'objectivation. Et du coup, la mère porteuse est exclue du travail de reproduction en tant qu'agent. Son travail est naturalisé, c'est-à-dire il est pris pour acquis, elle est considérée comme un agent passif dans ce travail-là, comme l'a été, il est encore, le travail domestique, et c'est ça qui renforce les pratiques qui sont dénoncées, c'est-à-dire ces formes d'exploitation. Du coup, le parti pris dans le texte, c'est justement de dire que ces formes de travail genré devraient être considérées comme telles, et devraient être considérées comme productrices de valeur. La nature du travail donc doit être repensée au regard de ces changements d'internationalisation et de commerce des tissus liés à la reproduction biologique et des ventres.
Parce que dans le cas de la GPA, la mère est autant objectivée que l'enfant finalement. Ça reste la machine de production du produit fini en fait.
Après on pourrait dire que en tous les cas on est tous un peu des machines je pense de production. Enfin je veux dire.
Ouais mais là c'est ouais. Ouais, c'est vrai.
D'une certaine manière. Mais là, ce qui est proposé, c'est de se dire que le travail, du coup, c'est plus manufacturer un produit ou rendre un service ou ce genre de choses contre une contribution, mais de mettre la vie et la transmission de la vie au sein aussi de...
Ouais,
la transmission aussi. De la vie et ouais. De l'énergie comme un travail, quoi. Voilà. Et du coup, en plus, donc ce travail qui est un travail de transmission d'énergie humaine ou de vie, hein, comme on peut le dire, ou d'énergie vitale, vers un consommateur, épuise les corps des personnes qui sont mères porteuses ou qui font don de tissus
organiques
de leur propre corps, et ça devient une main-d'œuvre biologique de bas coût pour étendre la vie ailleurs dans les pays riches. Alors, ces auteurs sont clairement... Ça, c'est la première partie du texte. Après, il y a une deuxième partie du texte qui repose moins sur les écrits de ces trois théoriciennes. Je répète, Catherine Welby, Melinda Cooper et Kalindi Vora. La deuxième partie du texte, c'est là la grosse intervention, on va dire, de Kevin Floyd. C'est son apport à l'article. Donc en gros, ces auteurs sont clairement en faveur d'une reconnaissance du travail de reproduction biologique comme tel, et de toute façon, on peut difficilement s'opposer à une telle logique. Mais Kevin Floyd soulève un point assez crucial, c'est que dans notre économie globalisée, reconnaître un statut légal au travail de reproduction biologique, sachant que c'est un travail qui est complètement externalisé et qui est importé de pays plus pauvres, c'est aussi invisibiliser la violence de l'expropriation de leur force de travail de l'expropriation dont ces travailleurs font l'objet en n'étant pas rémunérés à juste titre parce que les personnes qui se chargent des transactions ou les cliniques, etc. se font une marge de ouf, quoi, en gros. Donc soit les femmes sont des forces de travail exportées en tant que nounous, bonnes et travailleuses sexuelles, soit... dans le cas du travail reproductif, puisque ces femmes restent coincées dans les régions où elles habitent et où elles ne peuvent pas accéder à un travail, elles ne sont pas considérées comme des travailleuses, mais comme de la matière première vivante, puisque leurs tissus et leurs forces de vie, eux, sont extrayables et extraits de leur corps et sont déportés. Donc c'est là le problème pas reconnaître, c'est pas le problème, c'est enfin cette conséquence provient pas directement de la reconnaissance de leur statut de travailleuse, mais en tout cas, elle va renforcer cette idée-là. Du coup, il propose lui de voir plutôt ce travail comme, je cite, une sorte d'accumulation par dépossession du matériau vital des femmes déjà désespérément pauvres. Et il continue, cette nouvelle étape, celle du commerce transnational des fluides corporels, des tissus, de la fertilité, se caractérise par la disparition lente de la distinction entre la vie de certaines populations et la vie sous-individuelle, entre un agrégat de personnes et une extraction internationale de sang, de tissus et de codes génétiques agrégés. D'où le fait qu'on finit par confondre une personne avec les produits qu'elle permet d'importer vers l'étranger. Donc la conclusion de ce texte, c'est qu'il est nécessaire de reconnaître le caractère genré de certaines formes de travail et de reconnaître leur caractère invisible et de leur reconnaître le statut de travail, du coup, pour pouvoir les encadrer et que les personnes qui font partie de ce travail, enfin de ce système, soient le moins exploitées possible.
Et donc être rendues plus visibles, du coup.
En plus. Et oui, voilà, c'est ça, c'est aussi visibiliser ces chaînes de la maillon. Ce maillon de la chaîne, pardon. Mais il faut aussi identifier les processus d'abstraction de la force de travail des travailleuses de la reproduction biologique pour que ces personnes ne deviennent pas, qu'elles ne soient pas réduites à de la matière première dans un système de biotechnologie qui est soumis à la loi de la finance internationale.
Il y avait tout un article dans le Nouvel Obs il y a quelque temps sur ça concernait la GPA, mais qui peut faire écho à cet article de Kevin Floyd sur je sais plus comment ils appelaient ça, mais des espèces de cliniques spécialisées dans les gestations pour autrui en Inde de femmes indiennes qui étaient prises en charge à partir pendant tout le temps de leur grossesse et pendant quelque temps après leur accouchement. Mais en tant justement que mère porteuse, et l'article faisait le parallèle avec les États-Unis, où effectivement les femmes indiennes sont rémunérées, mais à hauteur des coûts des frais d'hospitalisation en fait. Et donc elles, pour le coup, elles gagnent pas beaucoup, enfin elles gagnent pas d'argent.
Elles sont pas rémunérées pour leur travail, elles sont juste leur grossesse, enfin le travail, enfin le.
Elles sont dédommagées, si on peut dire ça comme ça.
Exactement.
Et contrairement aux États-Unis où ils faisaient le parallèle, etc. C'est un article qui est assez intéressant et qui fait un peu écho à ce que dit Kevin Floyd dans le cadre de la GPA uniquement là pour le coup.
Voilà. Donc on essaiera de vous retrouver cet article. Et on vous mettra en ligne l'article de Kevin Floyd dont je viens de parler. Tout de suite, on vous balance un autre morceau pour faire une petite pause musicale. Le Tigre, Well, Well, Well.
I'm gonna give it. who's here?
Well, well, well.
Guess it's time
for show and tell.
Vous êtes de retour sur J'enrage, donc RCV 99FM, il est 3h moins le quart, et nous allons vous parler de la web-série de Céline Sciamma, Féminin Féminin, et je laisse...
Non,
Chloé Robichaud, voilà. Excusez-moi. Je laisse la parole à Zab pour vous présenter un peu la web-série.
Alors Féminin Féminin, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle web-série, c'est une web-série de Chloé Robichaud, une réalisatrice québécoise. La série se divise en 8 épisodes et se présente sous forme de documentaire abordant le way of life lesbien, on va dire. Du coup, on suit un peu les personnages dans le déroulement de leur vie, surtout leur manière d'appréhender leurs relations affectives, parce qu'on parle pas vraiment de leurs conditions économiques de vie, de quel genre de travail elles font, absolument pas. Le focus est vraiment mis sur leur manière d'appréhender leur vie affective. Et parallèlement, Chloé Robichaud ponctue les épisodes de petites interviews au sujet de l'homosexualité, de la manière dont elles vivent la leur, du coming out des participants, de leur vision de l'amour et de la manière dont elles s'investissent dans leurs relations. Plutôt un beau projet à l'origine, mais qui nous fait vite déchanter puisqu'en fait, premièrement, le discours véhiculé dans la série par les lesbiennes via les interviews est complètement univoque et homogène. Elles se conforment toutes au modèle relationnel dominant, pro-couple et pro-monogame. Qu'est-ce que c'est donc? C'est l'idée que la normalité, c'est le couple. Donc que quelqu'un de seul, c'est quelqu'un qui ne trouve personne à sa chaussure, c'est quelqu'un qui ne souhaite, et c'est pas quelqu'un qui ne souhaite pas être célibataire. Il y a cette idée que le célibat n'est pas, ou plutôt jamais, un choix dans... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois quand on me dit, quand tout le monde veut être en couple, c'est que, en fait, personne ne veut être tout seul. Ça n'existe pas. Et deuxièmement, que le seul modèle de couple est le couple monogame, puisqu'il n'y a aucune référence à d'autres modèles non exclusifs, voire ne parlons pas du polyamour, quoi. Donc déjà, il y a cette problématique-là, et ce discours pro-couple et pro-monogame. Deuxièmement, on notera la participation d'une lesbienne de 40 ans, ce qui est plutôt cool parce que les lesbiennes au-dessus de 30 ou 35 ans sont peu représentées, mais on regrettera fortement la quasi-absence de femmes de couleur. Et en tout cas, de toutes les autres minorités médiatiques, je vais les appeler comme ça, parce qu'elles sont pas représentées non plus, c'est-à-dire les butch, les trans, les pauvres, etc. Au profit de la figure de la lesbienne qui correspond assez au canon de beauté traditionnel hétéro. Donc il n'y a aucune remise en question ou revendication politique féministe au niveau de la représentation des femmes dans les médias, alors que c'est censé, alors qu'on s'attendait quand même à quelque chose d'un peu plus subversif. Voilà. Et troisièmement, y est également véhiculée une politique de la non-différence, c'est-à-dire tout le contraire de ce que prône en quelque sorte le courant queer, c'est-à-dire un discours qui tend à considérer qu'être homo ou hétéro, c'est la même chose. Alors comme le reprend Marie-Hélène Boursier qui a écrit un article dessus et dont on vous citera quelques extraits parce que c'est assez drôle.
Un article pour slat.fr.
Voilà. Un couple homo, c'est comme un couple hétérosexuel avec des hauts et des bas. Ça va, ça vient au gré du vent. Ça, c'est ce que dit une des participantes lors d'une interview. Et du coup, comme elle le souligne si bien, je cite, « Quel drôle de message en direction des jeunes lesbiennes que de les enjoindre à faire leur coming out pour ensuite affirmer qu'elles sont exactement comme les hétéros. Puisque l'existence même de l'événement ou du procédé du coming out va à l'encontre de l'idée que être hétéro ou être homo, c'est la même chose. » Il n'y a pas de coming out hétéro que je sache. Donc voilà, il y a cette politique de la non-différence. Et c'est absolument pas, en tout cas, c'est pas ce à quoi moi j'adhère. Et du coup, somme toute, c'est une série de lesbiennes, mais c'est une série très 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 hétéronormative. Donc c'est-à-dire qui réemprunte les codes de l'hétérosexualité, que ce soit des codes vestimentaires ou de beauté ou de relationnés. Et même si les interactions entre personnages se révèlent ponctuellement drôles, on regrette quand même le traitement très superficiel de la lesbian way of life. Et comme le disait Marie-Hélène Boursier, le fait que ce soit un vrai faux documentaire, puisque le discours est tellement univoque et homogène qu'on peut vraiment pas prendre ça en compte comme un vrai apport d'information.
Ouais. Moi, j'ai vu cette web-série aussi. Il y a deux, trois trucs. Je vais rebondir un peu sur ce que disait Zab et sur l'article de Marie-Hélène Boursier aussi. Tu parlais du célibat, Zab, tout à l'heure. Par rapport au célibat, dans le premier épisode, dans l'épisode pilote, il y a une protagoniste de la série qui sort d'une rupture un peu difficile et tout et qui fait le choix d'être célibataire, enfin, d'après ce qu'elle dit. Donc on peut voir là un choix d'être célibataire, etc. par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, mais là où ça rejoint l'article de Marie-Hélène Boursier et ce que t'as dit, c'est que deux épisodes plus tard, elle est quand même en couple avec une nana qu'elle rencontre dans ce premier épisode pilote et à qui elle dit qu'elle veut pas d'histoire sérieuse. Et avec qui finalement elle se met en couple et dans une relation exclusive.
Voilà, les forces normatives sont tellement fortes que même si tu choisis d'être célibataire, ça te tombe sur le coin de la figure. Et t'arrives pas à le rester, quoi.
Ouais, puis elle a l'air, en plus, du coup, ça, elle a l'air de le choisir par défaut parce qu'elle sort d'une relation compliquée où finalement elle trouve pas chaussure à son pied.
Voilà.
Enfin, comme elle se remet dans une relation exclusive, le choix du célibat apparaît comme étant un défaut ou comme étant fait par défaut, en fait. Et par rapport à ce que tu disais aussi, et ce que dit Marie-Hélène Boursier. Sur le fait que les relations homo et hétéro sont similaires et sont les mêmes. Moi, j'ai plutôt vu ça comme ça, en re-regardant l'épisode, comme le fait que la protagoniste en question qui dit ça parle des relations en général et pas forcément des relations amoureuses, etc. et qui dit que, en gros, rien n'est jamais acquis et que dans toutes les relations, dans toute interaction avec une personne, il y a des hauts et des bas, et plutôt qu'une. Enfin, moi je l'ai plutôt vu ça comme ça par rapport aux relations en général, plutôt qu'une mise en perspective des relations homo par rapport aux relations hétéro. Donc, après, voilà, c'est un point de vue qui est personnel, une interprétation personnelle, et le propos de Marie-Hélène Boursier par rapport à la similitude entre les relations hétéro et les relations homo se tient aussi, parce que finalement la série est hyper normative, c'est vrai, et. Mais voilà, moi je l'ai plutôt vu avec un aspect là en tout cas subjectif par rapport aux relations en général et pas tant que ça une mise en perspective des relations homo et hétéro.
Non mais t'as raison, vu comme ça et présenté de cette manière-là, effectivement on peut pas nier le fait que il y a des fluctuations dans toute relation, mais c'est vraiment le terme comme un couple hétérosexuel.
Ouais, c'est vrai.
Qui posait problème dans sa phrase. On dirait presque un spot de pub pour promouvoir la sexualité lesbienne aux hétéros en disant on est comme vous.
Ouais, moi j'ai
vous aussi vous pouvez le faire quoi. Enfin.
Ouais, c'est vraiment ça donne un peu l'impression justement que ça donne l'impression que c'est une série pour les hétéros en montrant les homos comme étant finalement pas si éloignés d'eux et tout à fait acceptables et
voilà.
Qui vont pas. Et j'ai aussi juste un truc En fait, au début, ça m'a marqué parce que je trouvais ça intéressant et c'est dommage qu'on le retrouve pas dans tout le reste de la série. Mais dans le premier épisode aussi, dans l'épisode pilote, à un moment, quand Chloé Robichaud interviewe les personnages, il y en a une qui est là et qui a l'air un peu de se prendre la tête pour répondre à la question et qui Chloé Robichaud lui demande si elle est gênée, etc. Et le personnage en question répond que non, elle n'est pas gênée, mais qu'elle trouve que ces questions trop directes sont hyper clichés par rapport à lesbiennes. Et je trouvais ça intéressant parce qu'elle met vraiment le mot dessus. que le pseudo-reportage qui est fait par Chloé Robichaud et avec les questions qu'elle pose sont des questions clichés, et le personnage dit qu'elle aimerait bien reformuler toutes les questions, nuancer tous les mots, mais vraiment tous les mots qu'emploie Chloé Robichaud pour que ça donne une question plus... plus pertinente, et mais du coup après elle passe à autre chose en disant on partirait dans des débats un peu philosophiques, etc. Et je trouve ça dommage que
qu'on soit pas parti dans ces débats,
philosophiques, et qu'effectivement elle reformule pas les questions, parce que ça pourrait être aussi intéressant que au-delà de l'envie de reformuler les questions, elle reformule les questions justement pour que au moins il y a quelque chose de subjectif et que qu'elle fasse quelque chose qui lui parle à elle, parce que du coup elle peut pas répondre aux questions de Chloé, en fait. Voilà.
Et alors juste pour si vous citez quelques passages de l'article de Marianne Boursier qui sont quand même assez drôles, enfin j'espère que vous les comprendrez. Je cite: imaginez la tête d'Alice Piezecki de The L Word devant dessiner un mapping des interactions sexuelles à 8 branches. Jamais elle n'aurait tenu 6 saisons. Là c'est la petite référence à la monogamie et au fait que les personnages de ces 8 épisodes soient hyper pro-couple et restent dans leur dans leur relation.
Par rapport à ça aussi, il y a un personnage qui, à la fin de la première saison, je pense, qui, donc c'est la fille qui est en couple depuis 4 ans. Il y a un passage où, dès le premier épisode, on sait qu'il y a une fille qui lui tourne autour, etc., et que ça lui fait de l'effet machin. Finalement, elle trompe sa copine. Et donc on peut se dire qu'on sort éventuellement un peu de la monogamie, mais en fait non, on retombe dans le même schéma, parce qu'elle se met en relation exclusive, elle quitte sa copine avec qui elle est depuis 4 ans, et elle retombe exactement dans le même schéma avec sa nouvelle copine, dans une relation exclusive, elles habitent même très très vite ensemble, parce que du coup, Émilie, celle qui a quitté sa copine avec qui elle était depuis 4 ans, a plus d'appart parce que sa copine garde l'appart et le chat, enfin voilà, on est vraiment dans un truc... Finalement, on ne sort pas de ce même schéma-là, quoi.
Des carcans, ouais.
Voilà.
Et alors, moi, ce petit article, juste pour terminer sur cette note-là, m'a fait penser... Enfin, cet article... L'article de Marie-Hélène Boursier, puis les réflexions qu'on a pu avoir là-dessus, m'ont rappelé un autre article qui s'appelait... Enfin, qui s'appelle toujours, d'ailleurs, « Des femmes qui courent », qui est sorti le 4 juillet 2014, qui a été écrit par Marie Ozymandia, que vous pouvez retrouver sur son Tumblr, qu'on vous mettra aussi en copie sur le Facebook... qui n'a en soi pas exactement à voir avec ce dont on parle, puisque là, elle analyse, en fait, dans un super cut, c'est-à-dire l'enchaînement, voilà, de plusieurs scènes, là, en l'occurrence, de course. Elle analyse un super cut de gens qui courent, tiré de films d'action. Et du coup, son analyse la pousse à conclure qu'il y a peu de femmes qui courent dans ce super cut. Ce qui est symptomatique du fait qu'il y a peu de femmes qui courent tout simplement dans les films d'action ou tout court dans tous les films. Le fait qu'on perçoit tout de suite le male gaze dans ces scènes de course, donc le male gaze c'est ce regard masculin, c'est-à-dire que les corps des femmes sont sexualisés, les scènes sont faites par et pour des hommes et pas, et du coup ce qui est mis en valeur c'est pas la force qui émane de ce corps qui est en train de courir, mais c'est le potentiel sexuel de ces corps-là. Contrairement aux scènes de course masculines, autres commentaires, les personnages dits forts renoncent à leur féminité d'une certaine manière, et généralement, elles sont fortes en épousant les codes de la masculinité, ce qui renforce l'association force-masculinité au lieu de les chercher à créer une espèce de force féminine. D'ailleurs, il y a un autre article qui avait été écrit au sujet des... pas Dragon Ball Z, je me souviens plus de cette série. Sailor Moon, voilà. Sailor Moon qui représentait justement cette force, mais qui est associée avec des attributs complètement féminins, avec des rouges à lèvres, avec des diadèmes, etc. C'est des diadèmes, donc le truc bien associé au code vestimentaire féminin, qui leur procure une force surnaturelle. Donc là, c'est tout le contraire. C'est en épousant les codes de la masculinité, en marchant comme un homme, en étant musclé, etc., qu'elles sont fortes, ce qui est plutôt... c'est pas regrettable en soi, mais voilà, c'est pas positiviste. Il n'y a pas une image positiviste de la féminité forte. Et bref, il y a ce male gaze qui participe du coup silencieusement à l'expression du patriarcat dans toutes les scènes. Et du coup, pour revenir à féminin, là le problème c'est la même chose, c'est qu'il y a cette homonormativité qui est ultra exprimée dans la série, et ce discours à la fois nous influence et on le légitime en le consommant en fait. aux dépens des identités qui sont marginalisées en étant non médiatisées dedans alors qu'elles existent. Après, on peut apprécier un produit et le consommer, mais il faut en tout cas garder ce regard critique sur les productions audiovisuelles qu'on consomme.
Ouais.
Et il faut essayer de favoriser la production des productions audiovisuelles qui enfin visibilisent ceux qui sont jamais visibilisés.
Ouais, parce qu'en plus là, la série peut
aurait pu le faire, quoi.
Ouais, il y a carrément matière, quoi. Ça peut être hyper intéressant. En plus, c'est une web série, c'est des épisodes de 10 minutes, un quart d'heure. Il y a moyen, alors qu'on reste dans une normativité ennuyeuse et
consternante un peu.
Ouais. On peut s'y retrouver, mais enfin, il y a pas que ça, quoi. C'est hyper. Il y a un parti pris assez. Je sais pas comment dire. Enfin, voilà.
Conformiste.
Ouais, tout à fait. Ce qui est dommage.
Voilà, et ben, il est 14h58. L'heure est déjà passée. On se retrouve dans 15 jours. Vous pourrez retrouver le podcast en ligne. Et à bientôt.
Salut.
Salut. Bon dimanche. Giant. Phoenix colors, bird bright.